Dans le cadre du programme Andaré-Soula sur la valorisation du patrimoine local, la municipalité d'Auxesse a organisé le 17 octobre 2020 une conférence consacrée à l'église d'Auxesse. Cette église, dédiée à Saint-Julien d'Antioche, a été construite au XVIe siècle. Elle a été récemment inscrite dans l'inventaire des monuments historiques en 2014. Prochainement, d'importants travaux de rénovation vont avoir lieu sur cet édifice, notamment au niveau de la toiture et de la charpente. Après le mot d'accueil d'une conseillère municipale d'Auxesse, quatre intervenants ont participé à cette conférence. Le professeur Jean-Baptiste Orpustan, enfant d'Auxesse, historien érudit du Pays Basque et auteur entre autres du livre « Ursaïtz, la vallée d'Auxesse ». L'architecte Michel Berger lors d'une vidéo réalisée par Michael Eramouspé retraçant les phases successives de construction ou d'aménagement de l'église d'Auxesse. L'architecte du patrimoine Isabelle Joly de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui va diriger prochainement les travaux de rénovation, et Mano Curuchari, conservatrice à Bayonne auprès du ministère de la Culture pour les antiquités et objets d'art. Nous allons vous proposer l'intégralité des interventions de Jean-Baptiste Orpustan et de Mano Curuchari et des extraits de l'intervention d'Isabelle Joly concernant les travaux qui seront menés prochainement. Et nous commençons donc par l'histoire de l'église Saint-Julien d'Antioche d'Auxesse avec le professeur Jean-Baptiste Orpustan.
J'ai à vous parler de deux documents très anciens, puisque le premier nous fait remonter au Xe siècle et le deuxième quand même au XVIe, ce qui n'est pas mal. Au Xe siècle, parce que c'est la première mention que nous avons de l'existence même de la vallée d'Auxesse et de quelques autres d'ailleurs, à savoir les territoires qui faisaient partie anciennement de ce qu'on appelle le diocèse de Bayonne ou du Labourg. Le diocèse de Bayonne n'était pas, comme on pense maintenant, réduit à ce que nous connaissons, ou plus exactement ce qu'il était jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire le Labourg et la Basse-Navarre de Saint-Jean-Pied-de-Port ou la Basse-Navarre du Sud, puisque celle du Nord, celle de Saint-Palais, fait partie de l'évêché de Dax jusqu'à la Révolution. Mais en plus de ce territoire, l'évêché bayonnais avait sur le territoire espagnol des terres qui étaient toutes, d'ailleurs, à cette époque-là, au royaume de Navarre déjà, à savoir la vallée du Bastan que tout le monde connaît, qui est tout près, la vallée de l'Erin, jusqu'au port de Belate, on dit, que tout le monde connaît dans la région aussi, le port de Belate, et également la terre de Hernani et le Guipuscoa jusqu'à Saint-Sébastien. Alors, un historien local, Aristoï, dit qu'il y avait aussi la Biscaye. Mais apparemment, il est le seul à le dire. Voilà. Alors, ce territoire, nous le connaissons par un premier papier, qui est donc des années proche de 980, je vous dirai après pour quelles raisons c'est de cette époque-là, où l'évêque du temps délimite officiellement, ce sera reconnu ensuite par la papauté bien sûr, le fameux territoire que je viens de vous décrire. Cet évêque, il est évêque de Bazas et de Gascogne, parce qu'à la fin du Xe siècle, vers 980, les autres évêchés régionaux ne fonctionnent plus. Ni Bayonne, ni Dax, ni Aire, ni Lescar, ni Oloron. Ils ne fonctionnent plus parce que les Normands ou les Vikings, comme beaucoup ont entendu parler par la télévision, par exemple, les Vikings ou les Normands, occupent la région. Ils ont dévalisé toutes les églises et les monastères. Et il ne reste donc plus qu'un évêque qui porte le titre d'évêque de Gascogne et de Bazas. Bazas, c'est le plus septentrional des neuf peuples qui vont constituer ensuite ce qu'on appellera la Gascogne. Et cet évêque va délimiter ainsi le territoire de l'évêché. Voilà, ça c'est le premier texte, je ne m'y attarde pas. Il faut savoir tout de même que ce qui est intéressant, c'est certainement l'époque 980, dans les années 981-82, le duc de Gascogne, qui est en même temps de Bordeaux, Sanche Guillaume, décide qu'il y en a assez des Vikings sur place. Donc, ils organisent une armée et ils font une bataille dans les Landes, à Thaler, si vous savez où se trouve Thaler dans les Landes. La bataille est décrite par les historiens d'ailleurs, avec tout ce cas, tout le résultat. Et les Vikings sont chassés. On peut commencer donc à reconstruire ce qui avait été abandonné ou détruit à l'époque des Vikings. C'est certainement la raison de ce texte de l'évêque qui s'appelle Arcius Raca, un nom qui n'est pas local, bien entendu, évêque de Pazas et de Gascogne, pour délimiter le territoire. Voilà le premier texte. Je ne m'y attarde pas, parce qu'il y en a un deuxième qui est beaucoup plus important, et qui, celui-là, est du XVIe siècle. Alors, on en a une photocopie pour montrer à curiosité l'importance de cet écrit par son volume.
Je vais faire le lutrin.
De toute façon, ce n'est pas la peine. On ne pourrait pas le lire ni le comprendre. Premièrement, parce qu'il est entièrement écrit en gascon, et non pas en français, bien sûr, parce qu'il est écrit à la cour de Navarre béarnaise, où on n'est pas en France à cette époque-là, hein. On est en Navarre, hein. Et à la cour de béarnaise et paloise, où la langue officielle, c'est le gascon. Donc, il est entièrement écrit en gascon. Et deuxièmement, il est bien entendu, selon l'écriture de l'époque, particulièrement difficile à déchiffrer. Il a été fait, un article là-dessus avait été publié il y a déjà des années dans un bulletin du Musée Basque, pour les curieux qui ont des collections du bulletin du Musée Basque, dans le numéro 73 du troisième trimestre 1976, il y a un article de la Vallée d'Ossès où ce document est traduit et résumé. Alors, dans ce document, il y a trois choses intéressantes. Un, il y a les réclamations des habitants d'Ossès pour demander qu'on fasse une nouvelle église plus grande, parce qu'ils sont trop nombreux, ils n'ont plus assez de place. En effet, depuis la fin de l'époque médiévale, où on sait que pour toute la vallée d'Ossès, à savoir à Rossa compris, on a 100 maisons anciennes, ben là, rien qu'en au quartier d'Aïs, seul on en comptera 85 et ainsi de suite, donc on a des quantités de gens qui ont dû s'installer ici. D'abord parce que la population a grandi, et puis ensuite probablement parce qu'il y a eu quand même au XVIe siècle, peu avant cette époque, la guerre de Navarre, lorsque Alphonse le Catholique a envahi la Navarre, y compris toute cette région, et qu'il y a eu une longue guerre qui a eu duré de 1512 à 1528, avant que les accommodements se fassent et qu'on coupe la Navarre en deux. On va laisser cette partie de la Navarre ici, et la Navarre d'Espagne va rester sous l'autorité des rois d'Espagne. Ce qui va entraîner, bien entendu, des problèmes pour la partie de l'évêché de Bayonne qui est en Espagne. Alors, les habitants d'Ossès ont demandé donc la reconstruction de l'église pour l'agrandir, estimant que l'ancienne était trop petite, qu'il ne pouvait pas y être décemment, comme ils disent, et que, de toute façon, elle menaçait ruine. Alors, pour cette reconstruction, ils demandent qu'on y mette le mobilier qui convient. Alors, on cite, il faut des grilles de fer, il n'y en a plus, mais autrefois, il y en avait. Des grilles de fer, il faut des retables, il en reste là, et il faut ce qu'il faut, il faut un mobilier. Ça, c'est la demande des habitants de Ossès. Alors, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait, cette demande. Probablement le conseil de Jura de l'époque. Mais il y a quelques années auparavant, en 1649, une ré-modernisation, si on veut, des droits et privilèges du pays d'Ossès, faite par, non pas les rois de Navarre de cette époque-ci, qui sont Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret que tout le monde connaît pour avoir été ensuite protestante, mais son père, Henri d'Albret, qui a renouvelé donc les privilèges d'Ossès, ayant comme intermédiaire, au nom des gens d'Ossès, un personnage qui est cité et qui s'appelle Pierrech de Harismendi. Alors, Harismendi, c'est une maison qu'à Ossès, tout le monde connaît. Et ce Pierrech de Harismendi C'est probablement quelqu'un qui est également très connu, et c'est le futur conquistador qui sera tué en Amérique du Sud par Aguirre le Guipuscoan. Certains ont peut-être vu Aguirre ou La colère de Dieu au cinéma. Pour ceux qui l'ont vu, ils ont cette affaire qui est reproduite. Et c'est plus tard, en 1561, et ce Pierres, normalement, d'après les éléments de généalogie que nous connaissons, eh bien, c'est Pierre d'Ursoa, puisque la maison d'Arismendi, jusqu'à la Révolution, a appartenu à la famille d'Ursoa, qui est une famille très connue du Bastan de Arisco. Et donc, voilà, le personnage intermédiaire, peut-être, en tout cas à quelques années près. Deuxièmement, pour cette construction, il demande que l'évêque cède le quart de ses revenus annuels. Alors, on a compté les revenus, on sait qu'ils font 300 écus et davantage. Alors, je n'ai pas fait le calcul pour savoir combien 300 écus de 1560 pourrait faire maintenant. Mais il y a des gens qui savent faire le calcul. Hein. Donc, il demande le quart des revenus pour que l'église soit refaite jusqu'à la fin des travaux. Et l'acte des rois de Navarre consiste donc, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, consiste à résoudre ce procès. Alors, ils le font d'une façon très simple. D'abord, ils décident que l'évêque va laisser, non pas... je vous ai dit que les habitants de Nocès voulaient que l'évêque laisse le tiers de ses revenus, hein, le tiers de ses 300 écus. L'évêque va décider qu'il n'aura à laisser que le quart, et que les habitants de Nocès devront fournir tout le travail nécessaire, le charroi en particulier, et ensuite, pour diriger les travaux, les rois de Navarre nomment leur vice-chancelier et conseiller, dont on a le nom, qui s'appelle Pierre de Peretti, et qui signe d'ailleurs à la fin de ce papier que tout à l'heure je vous ai montré. On peut voir, mais vous ne le verrez pas, ici en bas, la signature de Pierre de Peretti. Alors cet acte est fait sur place, théoriquement, on cite le château de Garis, qui appartenait au roi de Navarre, et Saint-Palais, donc il est fait là, et cet acte contient donc l'acte de la fin de ce procès où les habitants vont fournir donc le travail, mais on ne connaît pas malheureusement ni le nom des maîtres experts, comme il est dit, c'est-à-dire probablement des architectes, s'il y en a eu, ni bien entendu les plans qui ont été établis, s'il en a été établi. Alors, on ne sait pas si on en établissait à cette époque, voilà. On n'a pas tout ça. Et bien sûr, pour mettre fin au procès, l'évêque est tout de même condamné aussi à payer les dépenses, c'est-à-dire les frais du procès. Alors, il faut dire que les évêques de Bayonne, à cette époque-là, j'en dirai deux mots, sont des personnages très importants. De 1526 à 1532, on a Jean du Bellay, qui sera plus tard cardinal, mort à Rome, l'oncle du poète, enfin un très grand personnage, qui est ambassadeur pour François Ier pendant ses problèmes avec Charles Quint. C'est la guerre entre la France et l'Espagne, bien entendu, à cette époque. Ensuite, il y a eu Étienne Poncher, qui a été évêque de 1532 à 1551, qui avait été déjà évêque de Paris. À l'époque, il n'y a pas d'archevêque à Paris, il n'y a qu'un évêque. Évêque de Paris, et qui sera ensuite archevêque de Tours, donc un personnage qui va monter en grade après. Et le troisième, c'est Jean de Moustier du Fraisse, 1551-1562. Normalement, c'est lui qui est évêque au moment du procès, mais apparemment, il n'est pas là. Et c'est son vicaire général et procurateur, qui s'appelle Jean de Sociento, qui est d'Asquin, donc qui mène les affaires pour ce procès. Or, Jean de Sociondo va être lui-même nommé après Moustier, va être nommé évêque de Bayonne plus tard, mais entre-temps, il aura perdu tout le territoire qu'il avait en Espagne. En 1566, Philippe II, roi d'Espagne, obtient un bref du pape qui lui laisse toute la partie espagnole de l'ancien diocèse bayonnais situé de l'autre côté, et qui va revenir ensuite aux évêques espagnols de Calahorra et de Pampelune. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ces documents-là et pour la présentation. Alors, cette église a été construite donc dans les années qui ont suivi, jusqu'à quand, on ne le sait pas, mais certainement bien avant le portail, parce que dans un petit message que j'ai lu récemment à la télévision, on écrivait encore que l'église est de 1668. Mais non, elle n'est pas de 1668, c'est le portail qui a été rajouté en 1668. Par qui? Eh bien, par l'évêque de Bayonne, parce que l'évêque de Bayonne, Jean d'Ols, qui a marié Louis XIV et Marie-Thérèse, tout le monde connaît cette histoire-là, était resté pendant des années curé d'Ossès. Donc il connaissait très bien la question. Il est d'ailleurs, je vous signale, il est mort à Ossès. Il est mort dans la maison de chez sa sœur, qui était locataire précisément toujours de la fameuse maison Arismendi. Voilà pour l'histoire que je pouvais vous dire à propos de ces documents. Et je m'arrête là parce que j'ai dû dépasser le temps déjà.
Après l'intervention du professeur Jean-Baptiste Orpustan concernant donc le début de l'histoire de l'église Saint-Julien d'Antioche d'Ossès, voici l'intervention de Mano Curuchari, conservatrice à Bayonne auprès du ministère de la Culture pour les Antiquités et Objets d'Art. Mano Curuchari nous présente les objets inscrits ou classés présents dans l'église d'Ossès.
Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de participer à cet après-midi. Et d'abord, je voudrais préciser ce qu'on appelle la protection monument historique, que ce soit pour l'édifice, que ce soit pour les objets que je vais évoquer, moi, lors de mon intervention. Qui décide d'une protection monument historique? C'est une commission qui décide d'une protection monument historique à la demande ou avec l'autorisation du propriétaire. Ça, c'est très important, sauf cas exceptionnel. Alors, l'église ici, Saint-Julien d'Antioche, est inscrite au titre des monuments historiques, c'est-à-dire c'est un arrêté préfectoral du préfet de région du 18 avril 2014, comme c'est inscrit sur l'écran, qui a décidé de protéger cet édifice au titre des monuments historiques. Alors pourquoi une protection monument historique? Parce que l'édifice ou l'objet présente un intérêt important au point de vue artistique ou historique. Voilà ce qui permet de protéger au titre des monuments historiques un édifice ou un objet. Quand il s'agit d'un classement, ce dont je vais parler maintenant pour deux objets, il s'agit à ce moment-là d'un arrêté ministériel qui décide de cette protection. Alors pour Saint-Julien d'Antioche, il y a trois objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Le premier, eh bien, vous l'avez devant vous. C'est exceptionnel, un maître-autel rétable classé monument historique, vous voyez, en 1975. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'autel rétable majeur, puisque à l'origine, il y avait aussi deux rétables, autels latéraux qui n'existent plus, ou pour lesquels il ne reste que quelques éléments. Là, on a donc un ensemble monumental exceptionnel pour, je dirais, deux raisons. Parce que d'une part, une partie de ce maître-autel, alors je vais essayer. Alors, pour sa structure, c'est-à-dire les colonnes, l'entablement, la niche rectangulaire, Dieu le Père, et pour cette partie ici, autour, bien sûr, de l'armoire eucharistique, c'est-à-dire le rétable plus deux panneaux, c'est un legs de l'évêque de Bayonne, Jean d'Ols, qu'a évoqué Jean-Baptiste Orpustan tout à l'heure. Il a légué cet ensemble par testament en 1681, c'est-à-dire 20 ans après avoir béni nuptialement Louis XIV et Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Alors, en revanche, on sait par les études de Madimiou en particulier qu'une partie de cet ensemble, 17e, avait brûlé. Donc, au 19e siècle, les frères de Crêpes qui sont d'un atelier bayonnais décorateur d'église, achètent des éléments d'un retable 17e d'une ancienne église d'Irun et viennent adapter un certain nombre de ces éléments sur la partie incendiée de ce retable. C'est-à-dire que cette partie-ci,
les angelots.
Voilà, là où vous avez plein d'anges dans les nuées, vous voyez beaucoup mieux de visu, c'est extraordinaire là. Vous avez une flopée d'anges ailés, et cette partie-là vient donc de cette invention, en quelque sorte, des frères de Crêpe au XIXe siècle, puisqu'ils mettent en place ces éléments-là en 1883. Vous voyez, ça fonctionne, ça dialogue. Il n'y a pas de problème, c'est intelligent, pertinent. Cet ensemble a été, bien sûr, classé monument historique en 1975. Je voudrais rajouter une chose, c'est que, normalement aussi, la table d'autel faisait partie de cette protection. Or, vous savez qu'après le concile de Vatican II, eh bien, désormais, les consignes étaient de dire la messe et d'officier face à l'assemblée des fidèles. Donc, il y a une partie de ce maître-autel qui a été déplacée. Alors, tout à l'heure, je regardais. Ah, apparemment, donc, on a reconstitué un élément à la base. Et vous regarderez, je pense que le décor, vous ne le voyez pas là, mais vous le regarderez tout à l'heure, de l'agneau avec la croix sur une nuée qui est un élément iconographique très ancien régime, est un élément de cet autel. Puis après, on a composé, on a recomposé des choses avec des colonnes, etc. On a fait un autel Vatican II. Voilà.
Ça,
mais,
colonne,
bon, on va retenir l'ensemble de ce qui est 18e. Alors, je voudrais tout de suite, merci pour la photo suivante, bien sûr, cette église est dédié à Saint Julien d'Antioche. Alors, qui est ce Julien d'Antioche? Alors, Antioche, c'est en Turquie, où on l'appelle aussi Saint Julien de Tars. Il a été, bien sûr, persécuté, martyrisé, comme beaucoup de nouveaux chrétiens au IIIe siècle. Je vous ai mis, certes, une mauvaise photo, mais vous le voyez, il apparaît dans la niche rectangulaire, tout à fait là-haut, avec sa palme du martyr dans la main droite, parce que ce Julien d'Antioche, alors c'est un personnage qui a vécu au IIIe siècle, son martyr est extraordinaire. D'abord on l'a déchiré un petit peu sa peau, comme il ne reniait pas la foi chrétienne, on l'a dépecé, il continue à vivre. Alors on l'a brûlé un peu, il continue à vivre. Alors, l'histoire nous raconte qu'il a été éviscéré aussi. Bon, il continue à vivre, à ne pas renier sa foi chrétienne. Alors, qu'a-t-on décidé? Eh bien, on l'a enfermé dans un sac rempli de sable, mais aussi de scorpions et de serpents venimeux, et on a bazardé le tout dans la mer. Bon, il a fini quand même par périr. Alors, ce qui est extraordinaire, ce que nous raconte l'histoire iconographique du saint, c'est que les vagues ont transporté son corps avec le sac, hein, des côtes de Turquie jusqu'aux côtes égyptiennes, jusqu'à Alexandrie, où là, il a été recueilli et il a été reconnu comme saint. Alors, ce saint, pourquoi est-il titulaire de cette église? Je ne saurais pas vous dire. J'ai recherché quelles sont les autres églises dont le titulaire est Saint Julien d'Antioche ou de Tars. Eh bien, proche, il y a l'église d'Aax, d'Ascarat, Saint Julien d'Antioche. En Soule, vous avez Abens de Haut, il y a Lic, l'église de Lic, et en Béarn, Bournos et Mera. Donc, six églises qui sont dédiées à ce saint.
Voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est bien Juliette d'Antioche. Alors, pour le fameux rétable, je vais détailler cet autel monumental. On va commencer par s'intéresser à la partie donc, de Jean Dolz. Et vous savez que nous sommes au XVIIe siècle, après le Concile de Trente. Donc, on est au milieu du XVIe siècle, avec le Concile de Trente. Et l'Église catholique redéfinit ce que doit être une Église catholique, avec tout un décorum qui va mettre en lumière, bien sûr, le saint titulaire, mais aussi un élément important qui est l'armoire eucharistique, c'est-à-dire le tabernacle. Et ici, vous avez un superbe tabernacle sur lequel figure une crucifixion avec, quand nous le regardons à gauche, la Vierge Marie et à droite, Saint Jean. Donc, très très important, et sur les ailes du tabernacle, il y a bien sûr Saint-Pierre avec ses clés et Saint-Paul avec l'épée de sa décapitation. Je vous proposerai après de venir voir de près parce que c'est absolument remarquable. Puis on va continuer. Au-dessus du tabernacle, très très intéressant, puisque le Concile de Trente réaffirme aussi la Sainte Trinité. Donc, il faut qu'on puisse lire dans une église le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, on vient de le voir, il est crucifié, il est sur la porte du tabernacle. Et bien là, vous voyez qu'au-dessus du tabernacle, vous avez un Dieu le Père, magnifique, tenant le globe et bénissant. Il est dans une nuée avec un envol de drapé extraordinaire. Et peut-être, alors vous aurez les yeux de la foi et vous regarderez de près, vous avez la colombe du Saint-Esprit ici, dans la nuée. Ça y est, on a la Trinité, c'est bon, d'accord? Et alors, ce qui fait la curiosité aussi de cet ensemble légué par Monseigneur Dolz, c'est les deux médaillons que vous avez de part et d'autre, mis en lumière ou en exergue, très théâtralisé, avec ses retombées de rideaux, eh bien, vous avez un homme et une femme, que certains disent l'homme, c'est Louis XIV, et la femme, c'est Thérèse, Marie-Thérèse, l'infante. Alors, on retrouve ce type de médaillon laïque, hein, par exemple dans l'église d'Urcuit ou dans l'église de Méharin. Et dans d'autres églises en France, Louis Hautecoeur relève qu'au XVIIe, on pouvait trouver comme ça des portraits royaux, seigneuriaux, insérés dans des décors baroques. Alors, certains disent, oh non, c'est la Vierge et Saint Jean. Vous croyez ce que vous voulez, je n'ai pas de réponse immédiate. Merci. Alors, au-dessus, et là aussi, ça mérite un regard de près, vous remarquerez deux très, très beaux panneaux. Alors, je les montre, ne confondez pas avec les rouges. Ils sont là, ici, de part et d'autre de la monstrance. Vous avez une très belle annonciation. Vous la voyez, on voit la Vierge qui est à genoux devant une table puisqu'elle était censée en train de lire, et on a un très bel ange tenant des fleurs de lys s'approchant d'elle et lui annonçant qu'elle serait la mère du Christ. Et de l'autre côté, vous avez la visitation, hein, donc la Vierge qui vient rendre visite. Voilà. Alors, quand j'ai regardé de près, vous voyez qu'il y a un petit intrus à cet ensemble baroque qui s'est pertinemment glissé. Vous voyez ici ce personnage, qui est un personnage du sculpté au XXe, qui a été inséré dans cet ensemble, qui n'est plus, l'élément n'est pas lui classé, c'est un petit Saint-Jacques, un Santiago, un Saint-Jacques, dit de Compostelle. Occupons-nous maintenant des éléments d'Irun. Alors, de facture très différente, une nuée avec des anges, des chérubins, alors avec un élément, un Christ triomphant ici, tout à fait au-dessus d'un endroit où devait figurer probablement une statue, laquelle, là, il n'y a plus de statue. Vous voyez, il n'y a pas de statue dans cette deuxième niche pour présenter quelque chose. Mais en revanche, photo suivante, de part et d'autre, des panneaux. Là aussi, assez extraordinaire, dédié à la Vierge. Alors, à gauche, vous avez un couronnement de la Vierge, voyez, par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est là, il est présent. La colombe est là et la Vierge est couronnée, elle est sur une nuée avec une fois de plus des anges. Et de l'autre côté, vous avez une assomption de la Vierge extraordinaire. Et vous remarquez donc cette Vierge est montée en quelque sorte au ciel avec ses anges et elle a sous ses pieds le croissant de lune. Voilà, vous regarderez, c'est vraiment extraordinaire. Autre élément, là je parle d'un objet qui est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1988. C'est un Christ en croix, et tout à l'heure je l'ai un peu plus étudié en arrivant. Alors seul l'élément corps est du XVIIe siècle. La planche sur laquelle est cloué maintenant cet élément est beaucoup plus récente, probablement du XXe, ainsi que le panneau I-Henri, qui veut dire, vous le savez, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, on est bien d'accord. Alors, ce Christ est très trapu. Il a, vous le regarderez, il a un visage beaucoup plus petit que l'ensemble du corps. Il a il est polychrome et le pagne, le périsonium, c'est-à-dire le pagne qu'il a autour des reins, est couvert et doré à la feuille d'or. Et c'est un Christ qui, à l'heure actuelle, est fragilisé parce que quand on réalise ce type de statue, on prend un bloc de bois, on fait le corps et on taille les bras dans d'autres morceaux de bois et on assemble les bras au corps après. Et vous regarderez le bras droit du Christ, c'est-à-dire quand on le regarde à gauche, il est en train de se dessouder. Donc il va falloir, je pense, intervenir là. Pourquoi il se dessoude? Eh bien, je pense que quand ce Christ du XVIIe a été repassé sur les panneaux de bois actuels de la croix, vous remarquerez, il est à distance du bois. Or, ça tire énormément désormais sur les bras. Et donc là, voilà, il faudra que l'on voit ainsi. Alors, dernier élément, et parce que je ne veux pas... Voilà, eh bien, vous avez un magnifique hôtel Rétab, 18e siècle, qui est classé depuis 1984, c'est-à-dire qu'il était dans l'église à ce moment-là, on ne le retrouve plus. Alors, s'il y a des gens qui ont déjà vu cet hôtel, moi je n'ai pu avoir que des photos noir et blanc qui sont sur la base du ministère de la Culture. Alors c'est un magnifique hôtel 18e, avec un Christ crucifié sur le tabernacle. On peut montrer les deux autres pareils, de part et d'autre. On retrouve les saints et surtout à gauche l'ange de l'Annonciation et à droite la Vierge, eh bien, à l'heure actuelle, il est manquant dans cette église. Donc, si des gens savent ce qu'il est devenu, ce serait très, très important. C'est un élément de mobilier absolument superbe, vu ce que l'on sait d'après ces photos-là, il est manquant. En revanche, et voilà, donc si on n'a pas de nouvelles, je vais être obligée de faire un récollement officiel et de signaler, il y aura enquête de gendarmerie. C'est comme ça que ça se passe, parce qu'un objet classé, eh bien, ou inscrit, fait l'objet d'une enquête, parce qu'un hôtel comme ça, quand même, ça ne disparaît pas. Voilà. Alors, pour ma conclusion, eh bien, je vous renvoie, levez les yeux jusqu'au Père, Dieu le Père, tout à fait là-haut, qui nous regarde, qui bénit sûrement certains d'entre nous, peut-être pas tout le monde, mais bon, hein. Il est là, et puis vous avez sur le monogramme tout à fait en haut, sur l'entablement sur fond rouge, le SJ, Saint Julien. Et puis, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a des choses qui apparaissent. Je voudrais signaler cette superbe cloche qui a été descendue, c'est ça, du clocher, qui était dans le bronze, les décors magnifiques. La date, puisqu'on peut lire anno 1767, Jésus, Marie, Joseph, où on voit une très belle croix avec une fleur de lys à la base, préservée grâce au guano des pigeons. Donc, il y a un paroissien ou un homme de diocèse qui s'est appliqué à nettoyer tout ça. Cette cloche va revenir au sein de l'église et moi je vais proposer une protection du patrimoine historique. Pourquoi ? Parce que des cloches 17e, 18e siècle, on n'en a pas beaucoup en Pays Basque. Pourquoi ? Parce que souvent, quand elles étaient accessibles au moment de la Révolution, elles ont été descendues des clochers, fondues et ont servi à faire des canons et des boulets. Voilà. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'intervention de Mano Curuchari, conservatrice à Bayonne auprès du ministère de la Culture pour les Antiquités et Objets d'Art. Et voici maintenant un extrait de l'intervention d'Isabelle Joly, architecte du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Isabelle Joly qui va diriger prochainement les travaux de rénovation de l'église d'Ossès.
On a tenté une chronologie relative en plan avec une datation par couleur des différentes époques. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur ça, mais effectivement, on s'aperçoit que sur cette église qui nous paraît aujourd'hui très unifiée, entière, on a des interventions d'époques variées, notamment le transept avec ses grands vitraux 19e et ce décor 19e qui vient a posteriori de ces datations de 1668. Donc, par recoupement avec l'histoire dont M. Orpustan a pu nous balayer les parties les plus anciennes, on sait qu'on a un édifice médiéval qui est agrandi en 1668, qui est reconsacré probablement en 1668, puis remanié au 19e par des décors magnifiés. Le diagnostic est fait également avec des drones pour aller voir l'état sanitaire de l'édifice. Pour déterminer des campagnes de travaux et évaluer des montants de travaux, il faut faire un diagnostic général. Donc, par une mission drone, nous sommes allés vérifier l'état des toitures et une anomalie apparaît. Quand vous regardez dans cette vue d'avion le chevet, vous remarquez que les arêtiers qui couvrent l'extrémité du chevet de l'église ne sont pas du tout symétriques. On a une petite anomalie ici. Et quand on regarde l'état des toitures, on s'aperçoit que sur la partie du chevet, on a, au niveau des maçonneries, qui sont de très belles maçonneries en partie basse, une espèce de bricolage. Ce bricolage, pourquoi a-t-il été fait sur un édifice d'une si grande qualité? Pourquoi ces arêtiers ne sont pas symétriques? On s'aperçoit que cette intervention sur les couvertures a été relativement maladroite. Donc, ce diagnostic, pour vous faire rapide, a été diligenté suite à une anomalie de charpente où un entrée d'une des fermes a cassé et il a fallu faire des réparations d'urgence. Lors de ce diagnostic, nous savions que la charpente était fatiguée et qu'une vigilance accrue devait être explorée au niveau des toitures. Effectivement, les toitures sont en assez mauvais état. On a des végétaux qui se développent sur ces parties hautes et qu'il est temps aujourd'hui de faire quelque chose puisque d'autres images nous montrent que des tuiles ont glissé et que nous avons des trous dans la couverture. Les arêtiers ont glissé, les tuiles sont fuyardes aujourd'hui et c'est probablement la source d'eau qui percole depuis de longs mois qui ont affaibli les charpentes. Vous avez une photo de cette ferme qui a cassé, qui a été mise en sécurité d'abord par des sangles pour assurer la mise en sécurité rapide de l'édifice pour que les messes puissent avoir lieu de nouveau. Et c'est, je ne sais pas si vous voyez ici, des assemblages qui sont complètement ouverts, ferme après ferme, sur l'ensemble de la charpente. Il y a eu l'équipe des charpentiers locaux qui est intervenue pour reconsolider en urgence toutes ces fermes. Le scan 3D est extrêmement intéressant parce qu'il nous montre, je ne sais pas si vous voyez ici, l'ensemble des charpentes. On a un ensemble qui est très, très tordu, effectivement, je cherchais le terme. Très chahuté, effectivement. Donc, les gouttières des tuiles n'améliorent pas le dispositif et on a l'ensemble des fermes ici qui nécessitent une reprise complète. Donc, une des premières urgences des travaux va consister à refaire entièrement la charpente en chêne avec une dépose complète de cette charpente et une repose de charpente neuve. Cette disposition a été validée par la DRAC parce qu'il n'était pas possible de considérer cette charpente comme étant restaurable, malheureusement. Donc nous allons conserver certains entrées de ferme, parce que le plafond que vous voyez ici décoré est accroché à ces entrées de ferme. Donc nous allons démonter les fermes l'une après l'autre pour pouvoir conserver les anciennes entrées qui tiennent ce plafond, maintenir ce plafond en place par des tourelles d'été depuis le sol de la nef, et par-dessus, intervenir pour changer chacune des fermes. Et les travaux vont commencer à partir de fin décembre, début janvier. Voilà, les entreprises ont été retenues. Les travaux vont être réalisés en deux tranches. Deux tranches parce que les subventions sont par tranche de 400 000 euros. Donc, les travaux sont au-delà de cette tranche de 400 000, on est environ autour de 680 000 euros. Et il faut les subventionner en deux tranches de travaux. Donc, la première tranche va avoir lieu en 2021, sur à peu près 5 mois de travaux, et va consister à au changement total de la charpente. La deuxième tranche de travaux aura lieu probablement l'année suivante, ou en fin d'année 2020, et elle concernera l'ensemble des maçonneries. Le travail sur ces maçonneries que vous avez vu, le jointoiement de ces maçonneries qui sont aujourd'hui en ciment, souvent, ne permettent pas l'évacuation de l'humidité qui rentre à l'intérieur de ces maçonneries. Donc il y aura tout un travail de nettoyage, de démoussage, d'enlèvement des lichens et de changement de tous ces joints à la chaux cette fois-ci. Donc, en subvention, nous avons plusieurs organismes qui subventionnent. La DRAC à hauteur de 20%, la région également à hauteur de 10 à 15%, et le département également à hauteur de 10-15%. Donc, on on arrive à des taux de subvention importants sur ces opérations qui oscillent entre 60 et 80% et qui sont complétés parfois par des souscriptions locales qui sont animées par la commune et par la Fondation du patrimoine. Voilà, le planning sera établi avec les entreprises locales qui ont été retenues, principalement locales, la plus éloignée étant située à Bayonne.
Vous venez de suivre un extrait de l'intervention d'Isabelle Joly, architecte du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Isabelle Joly qui va diriger prochainement les travaux de rénovation de l'église d'Ossès qui devrait débuter en 2021. Ces interventions ont été enregistrées le 17 octobre 2020 en l'église Saint-Julien d'Ossès dans le cadre du programme Ondarei Sula sur la valorisation du patrimoine local proposé par la municipalité d'Ossès. Une belle assistance a participé à cette conférence et notamment les jeunes générations, preuve s'il en était besoin que l'église reste un monument incontournable de nos villages du Pays Basque. Et pour terminer, voici un chant enregistré en l'église d'Ossès lors de cette conférence le 17 octobre 2020, chant interprété par le chœur d'Ossès Orstei Starak.